Ok. Alors, on a vu qu'un bassis, c'est seulement si on a mis la chose mouktsé sur la chose permise avant Shabbat et qu'elle restait pendant tout le Shabbat, pendant tout le Ben HaShemashot. Donc, l'entrée de Shabbat, elle restait. Non, non, ça fait du. Il y a les camions qui vont venir, tout ça, ouais. Ouais, ils font. Voilà. Donc on a vu Hazak. On a vu que c'est quoi un bassis d'avar assour? La base d'une chose interdite. Si on met avec intention sur une chose permise, un plat par exemple, je mets avant Shabbat dessus de l'argent, une chose qui est mouktsé, avec l'intention que ça reste là-bas pendant l'entrée de Shabbat. Et ça reste effectivement pendant l'entrée de Shabbat, ça reste là-bas. L'entrée de Shabbat, c'est une période qui varie ici en Israël en 13 minutes et 25 minutes. À l'étranger, c'est même une heure. Plus on va vers le nord, plus ça prend du temps. Alors, même si pendant Shabbat, quelqu'un, un non-juif, un enfant, prendra l'argent, le plat, il reste interdit. Il devient bassis, il devient base, il devient mouktsé, comme la chose qu'il a sur lui. Maintenant, il y a une autre loi qui s'appelle, qui est un interdit de Levatel Kli Mecheno. Levatel, annuler Kli, un ustensile, Mecheno de sa préparation, la chose par laquelle il est préparé. C'est une marloquette Rishonim. Il y en a qui disent que ça ressemble à construire, c'est comme si je cimente le plat sur place. Il y en a qui disent que c'est comme si je détruis sa fonction. C'est un issur de Rabbanan, mais ça ressemble à construire ou à détruire. Et c'est quoi? C'est si pendant Shabbat, je prends un plat qui est permis, ou n'importe quelle chose, un bassis, une chose qui est susceptible d'être une base, et je mets dessus une chose qui est interdite. Quand j'ai mis une chose qui est interdite, cette chose-là, elle aussi devient interdite à être portée. La nuance qu'il y aura entre un bassis normal et cette chose-là, que le bassis, même si on a enlevé le bassis sur lequel on a mis la chose avant Shabbat, d'accord? J'ai mis l'argent sur un plat avant Shabbat. Si pendant Shabbat, quelqu'un vient et enlève l'argent, le plat reste interdit tout le Shabbat. Par contre, si pendant Shabbat, on va dire, j'ai mangé du poulet, j'ai laissé mes os de poulet, en disant qu'ils ne sont pas comestibles par, on va dire, des os de bœuf, d'accord? Ou des pelures, on appelle ça, quand tu casses des noix, tu as les écorces. Écorces de noix, pelures de pépites, d'accord? Je mange pendant Shabbat, je mets sur un plat. Au moment, j'ai un monticule de pelures de pépites, d'écorces de noix, d'os de bœuf, d'accord, qui sont tous mouktsés, rien à faire avec ça. Le plat, je l'ai interdit. Il est une sorte de bassis momentané. Tant qu'il y aura ces choses-là sur le plat, je ne vais pas bouger le plat. Si un non-juif vient ou quelqu'un par mégarde, il a pris le plat, c'est interdit, mais il a pris par mégarde et il a vidé tout ce qu'il y avait dessus. Le plat revient de nouveau permis pendant Shabbat. Mais cette action-là de mettre une chose interdite sur le plat, c'est ça qui est interdit en soi. Pourquoi? Parce que le plat, avant que je mette la chose mouktsé dessus, les pelures, les écorces, etc., le plat, il était permis, on pouvait le bouger. Et quand j'ai mis dessus la chose interdite, je l'interdis à le bouger. Il devient mouktsé comme la chose qu'il a sur lui. Donc, j'ai ou détruit sa fonction, ou c'est comme si j'ai cimenté. D'accord? J'ai pris du ciment, hop, j'ai collé dessus et j'ai construit. J'ai construit maintenant, j'ai mis comme c'est une partie intégrante du bâtiment. C'est une chose qui est très courante, il faut faire attention, parce que dans beaucoup de familles, j'ai été, ils ne savaient même pas que ça existait une loi pareille. Aussi, quand tu manges. Tu manges maintenant, tu manges des olives, d'accord? Tu mets les noyaux d'olive dans ton assiette. Puis après, alors, tant qu'il y a sur le plat des choses qui sont permises et interdites, et les choses permises sont plus importantes que les choses interdites, il n'y a aucun problème. Donc dans mon plat, j'ai du hummus, j'ai des salades, j'ai du poisson, tout ce que tu veux, et des olives. Maintenant, je mange des olives, je les mets de côté, d'accord, sur mon plat. Et je mange le reste. Et quand j'ai bien fini, je prends avec mon dernier pain, je suis bien tout ce qui reste, il reste une assiette propre avec des noyaux d'olive. Là, je viens de transgresser un interdit d'Arbonne de me vater des climes et pourquoi? Parce que tout à coup, l'assiette se retrouve être base de noyaux d'olive et ça l'interdit pendant le Shabbat. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra prendre comme ça de côté avec les. On a vu qu'avec le dos des mains, on pouvait transporter ce qu'on voulait et vider le contenu dans la poubelle. Mais le fait d'avoir mis ou laissé les noyaux tout seuls sur le plat et d'avoir rendu ça interdit même pour une quelques fractions de seconde, en cela déjà c'est interdit de mevatel kli mecheno, on annule un ustensile de sa préparation. Qu'est-ce qu'on a appris de cela? Qu'il y a un moyen de prévenir cela, c'est toujours laisser une chose qui est permise sur le plat. C'est ce qu'on fait quand on mange des pépites. Alors, on prend la pépite, on mange, tac, la pelure qu'on a, elle est mouxée. Je rappelle qu'on ne peut pas la passer de main à main. On la jette sur un plat. Ce qu'il faut d'habitude, c'est mettre dans le plat lui-même une chose importante qu'on ne voudra pas jeter.
Si même une chose pas très importante, comme un verre en plastique,
oui. C'est valable aussi pour un verre en plastique. Plus que cela, les poskim disent mieux, mais ils disent plus que cela. Ils disent un sac poubelle. Sac poubelle, il n'est pas mouxé, mais il n'est pas mouxé. Le sac poubelle vide, il n'est pas mouxé. Mais il n'est pas mouxé, t'as le droit de transporter un sac poubelle. Ok. Hein? Non, c'est pas la préparation que nous on a pensé. Préparation, c'est-à-dire qu'on pouvait le porter, on ne peut plus le porter, c'est ça. Il est permis. Hein? J'entends pas.
C'est
grave chez le rey. Grave chez le rey, c'est autre chose. C'est quand ça pue, ça se dérange, tu as le droit de l'enlever. Si c'est une poubelle ici qui pue, qui dérange, tu peux la bouger. C'est un joker, d'accord? C'est un joker. Mais d'avoir pris maintenant les choses interdites de mettre dans le sac poubelle, ça qui t'a permis? De rendre un sac poubelle interdit. Il était permis, tu l'as rendu interdit.
Ça fonctionne normal. Hein?
Hein?
Et alors?
Alors, tu as deux solutions. Ou bien, avant Shabbat, tu le rends déjà interdit en tant que bassiste. Tu mets déjà des choses, tu mets dedans. Tu prends une pépite, tu mets dedans. Enfin, un peu un truc important, on avait dit. Tu prends un linge d'enfant utilisé, tac, et tu le mets dedans. Là, c'est clair qu'il est déjà interdit. Après, tu pourras jouer toutes les ordures que tu veux dedans. Ou bien, tu feras attention tout le Shabbat de mettre une majorité d'ordures qui sont mangeables par des années, comme ici par les animaux qu'il y a dans le coin. D'accord? Ce qui n'est pas trop dur. Parce que quand tu vides, hein, qui fait ici Torah Nihla Yeshiva? Quand tu vides les plats, tu as bien plus de nourriture comestible que de reste. Donc il faut y aller, prendre une poubelle interdite. Mais quand tu mets vraiment un truc, par exemple, tu prends aussi, ici en Israël, tu as des nylonim, d'accord? Dans toutes les épiceries, tu as un sac en nylon qu'on donne comme ça. Quand par exemple, dans les familles orthodoxes où tu as beaucoup d'enfants, donc il y a toujours un enfant qu'on doit langer, c'est clair. Alors tu enlèves le linge, qu'on appelle ça, c'est un linge. Pas comme à l'époque, on mettait quatre fois le même linge et on le lavait. À l'époque, c'est une couche, hadpami, jetable. Alors, la couche jetable, tu la prends, maintenant, si je l'ai dans la poubelle, après, dans toute la maison, tu as une odeur nauséabonde de l'excrément qui, surtout en été, d'accord? Alors, tu le mets dans un nylon, tu fermes le nylon et tu mets comme ça dans la poubelle. Le fait de... Tu prends un nylon au hasard, qui, à l'origine, est là pour n'importe quel besoin qu'on aurait. Fin interdit, de me battre le mécanisme. Le nylon, il était permis, tu as mis dedans la couche, tu l'as rendu interdit. Attention, en passant, ceux qui font un nœud au nylon, d'accord, font un interdit de faire un nœud Shabbat. Parce que quand on fait un nœud pour une période longue, c'est un interdit. C'est comme un interdit des rabananes. Même si c'est un nœud non professionnel, mais c'est un nœud qui est fait pour toujours ou pour très longtemps. Or, quand je fais un nœud, la lach, elle est comme ça, pour des rabananes, c'est des rabananes, ça descend des rabananes. Quand je fais un nœud dans mon nylon pour me jeter dans la poubelle, c'est très rare que quelqu'un ira dans quelques jours ouvrir le nylon à la voirie, d'accord? Donc ce nœud-là est fait pour, il semblerait pour l'éternité, en tout cas pour une période qui est extrêmement longue, c'est interdit des rabananes. Faire très attention à cela. Aussi, quand il y a les couches, d'accord, il y a des scotchs, d'accord? Alors on permet de mettre le scotch et d'ouvrir et de le fermer quand on le pose sur des endroits prévus à cet effet-là qui permettent de plusieurs fois l'ouvrir et le fermer sans casser la couche, d'accord? Là, ça va, c'est pas pire qu'une. Enfin, le Rabbi Tzadok Bachor, lui, était marmer. Il disait qu'il fallait ouvrir la couche avant Shabbat et la fermer comme ça. Parce que sinon, c'est comme si tu crées une culotte, tu crées un pantalon pendant Shabbat. Alors, nous, on faisait cela, on ouvrait bien, après, on refermait. Là, j'ai créé ce pantalon et je peux l'ouvrir et le fermer. Mais une fois qu'il utilisait la couche, tu la prends et tu la fermes et tu prends maintenant le scotch et tac, tu le fais pour bien le fermer hermétiquement. C'est comme si de nouveau tu as fait un nœud ou tu as collé, d'accord? Ça, c'est interdit aussi de coller Shabbat. C'est un issour qui vient de toffer, de coudre. C'est comme si j'ai cousu ensemble et c'est fait pour toujours. Après, je le jette, c'est terminé. Donc attention à ce genre de choses-là. En parenthèse, on parlait maintenant de comment interdire une poubelle.
Enfin, à chaque fois
qu'on
mange quelque chose, après ça devient
une
mouxée. Je viens mouxer. Et alors, si je laisse sur la table, elle devient bassiste.
Ouais. Et alors, c'est là quoi, la table devient alors, on a vu que qu'est-ce qu'il faut faire. C'est ça qui nous sauvera de tous les cas de matériel climatique. C'est un problème très aigu et Shabbat. Je vous dis, ils font comme ça, d'accord. Parce que faut faire attention. Il faut faire attention qu'il y ait sur la table sans cesse une quantité de choses aussi importantes à nos yeux que les pelures. C'est pas difficile, d'accord? T'as même un petit morceau de pain, hein, il est plus important que les pelures.
Non, on avait dit si pour que la table soit bassiste, il faut que ça bassiste d'une chose relativement importante. Si c'est des pelures,
Oui, j'ai dit, mais s'il y a beaucoup maintenant, par exemple, tu as la nappe, d'accord? Tout le monde aujourd'hui met une nappe en nylon qui ramasse, d'accord? La nappe aussi, elle devient bassiste au bout d'un moment. Alors, faire attention qu'il y ait une majorité de choses qui soient permises. Par exemple, des serviettes utilisées, d'accord, des restes de nourriture que personne ne veut toucher. Tout ça, c'est pas mouxé. Je pense que même dans les ordures, d'habitude, il y a déjà une majorité qui n'est pas mouxée. Mais si, par exemple, tu as un monticule de pépites qui arrive dans certaines maisons, d'accord, de pelures de pépites, c'est bien de laisser sur place... une chose qui n'est pas mouxée.
C'est pourquoi une majorité, en termes de volume, en termes de valeur.
De valeur. De valeur, voilà. De valeur.
Si je mets les pelures de pépites dans un verre,
non.
Le verre il est sur la table.
Mais le verre, tu l'as rendu mouxé.
Le verre il est sur la table.
Et alors non. Alors le verre, tu l'as rendu mouxé, et la table devient mouxée parce qu'elle supporte du verre. C'est bassiste. Alors ça va. Le verre devient mouxé, la table ne devient pas mouxé. Si sur la table, il y a autre chose qui n'est pas mouxé, la table devient bassiste à souva moutard, bassiste pour une chose qui est permise et interdite, et elle reste permise. Le verre, qui est bassiste que pour les pelures, il devient mouxé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors laissez, mais une pépite, c'est insuffisant. Il faut une chose qui soit un peu plus importante. C'est vrai qu'une pépite, peut-être, est plus importante que 1000 pelures de pépites, mais ça passe. Même quand ils disent le pain, il y a un rave ici dans le livre, il écrit qu'il faut y avoir un casaïde de pain. Le plus simple, à mon avis, parce qu'il y a un problème aussi après, c'est qu'on ne veut pas jeter le pain. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, si j'enlève le... Alors, dernière seconde, j'enlève le pain du verre des pépites, j'ai rendu le verre de nouveau, mouxé, ça ne va pas. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je dois le jeter tout ensemble. Alors, jeter le pain, ça ne sait pas. Alors, après, dans la poubelle, tu reprends le morceau de pain. Bon, admettons. Mais il y a un problème de borère aussi. Borère, c'est un très gros problème.
Pour
le manger tout de suite. Ouais. Qui va le manger maintenant, une fois qu'il était dans la poubelle. C'est un problème. Ce que je fais, moi, c'est que je mets
de l'eau,
ouais, ça peut aller. Mais tu sais, tu pourras pas mettre beaucoup de pépites dans un verre d'eau. Plein. Un fond d'eau. Si l'eau est buvable, effectivement, par des animaux en tout cas, ça peut aller, qu'il y a une suffisamment grande quantité. Ce que je fais, moi, c'est un truc beaucoup plus simple. Je mets un couvert, un couteau, une fourchette, etc. Et quand je veux aller vider maintenant tout cela, en même temps, tu vides et tu prends la fourchette de cela et tu l'utilises. Compliqué. Le plus simple serait mettre de côté tous les plats comme ça qui sont avec les deux côtés. Motsé Shabbat, on se débrouille. Le mieux, en tout cas, pratiquement, c'est jamais mettre les pelures sur un plat, c'est les mettre sur la nappe de la table, et là, il y a toujours suffisamment de restes de nourriture comestibles par les animaux, de façon à ce qu'on ne rende pas la nappe mouxée.
Le mieux, c'est ça qui est appareil.
Non, mais on a le problème de... Mais va-t-il clim et réno? Ouais, qu'est-ce que tu vas faire?
Ça fait quoi s'il y a des animaux qui mangent l'or?
Chaque fois qu'il y a des animaux dans le coin qui peuvent manger des nourritures, elle n'est pas mouxée. S'ils sont dans le coin. Ça veut dire... Hein? Mouxée, c'est une idée que j'ai mis de côté. C'est pas mis de côté, un animal peut le manger. C'est pas mis de côté. Nous, aujourd'hui, on est une société de consommation gâtée, d'accord. Mais à l'époque, il n'y a rien qui partait pour rien. Une chose qui restait comme, mais si on ne jetait pas, on donnait aux animaux. On avait une ferme à la maison, d'accord. Alors, tu as des oies, tu as des chiens, tu as des chats, d'accord. Nous, on a des chats ici, à volonté. Donc, tout ce qui est comestible par un chat n'est pas moukté.
Le tekeli, c'est des rabananes.
Pardon ? C'est un issur de rabananes. Le tekeli
mechano. Si le diabète, on l'a rendu interdit.
Bon. Voilà, si on l'a rendu interdit. Est-ce
qu'on peut le rendre permis ?
Ça ne sert à rien. Parce que de toute façon, quand tu le jetteras, tu le rendras permis. Il n'y a aucune mission de le rendre permis. L'interdiction est de le rendre interdit.
C'est-à-dire, on ne peut rien faire pour réparer.
Tu vas apprendre bien les crottes mouktées.
J'ai le droit de les toucher, les pelures de pépites, ils sont sur la table ?
Non. C'est moukté. Hyper moukté. Attention. Ben ok, c'est pour ça qu'on apprend. Le plus dangereux, c'est quand tu vas choisir une pépite maintenant, et alors tu vois que tu t'es trompé, tu as touché une pelure. Le gars de Vilna, une fois, il était à table, et il a voulu prendre une noix, il s'est trompé, il a touché l'écorce de la noix. Il a vu ça, il est tombé dans les pommes. Le stapler, ça c'était il y a 300 ans, le 400 ans, le gars de Vilna. Le stapler, il y a 20 ans, à Bnei Brak il allait. Il passe entre deux voitures Shabbat, et tout coup il a trébuché, et il est tombé par terre. Il dit, Baruch Hashem, je ne me suis pas retenu sur les voitures. Alors, comme on a bavé, il aurait pu, parce que les voitures, comme on avait vu, ça dépend. Marloket, si c'est un statut de Mouksé Marloket Khatronkis.
Il y a un risque de touche de sakana aussi, genre, s'il peut tomber par terre,
il peut faire très mal. Ok, le stapler, ça va. De quoi on parle? Le stapler, il était sourd d'une oreille. Pourquoi ? Parce que quand il était jeune, il était à l'armée russe. Et Shabbat, un russe comme ça pour s'amuser, a pris son manteau, il était de garde. Il l'a jeté sur l'arbre. Elle va le chercher. D'accord ? Maintenant, on n'a pas le droit de monter sur un arbre Shabbat, de peur qu'on va cueillir. Donc c'était en plein hiver, l'arbre, il était mort. Et il n'y avait aucun risque, il n'y avait aucun fruit. C'est une xéra de Chazal. De peur, qu'est-ce qu'il va cueillir ? Rien. Mais c'est interdit. Chazal n'ont pas l'oplouk, ils n'ont pas de différence entre un arbre mort ou un arbre vivant. Et dans ces conditions, à moins 30, sans manteau, tu risques ta vie. Bon, il n'y a aucun problème, j'ai le droit. Ok, mais maintenant, là, je ne suis pas encore en état de piquoir nefesh. Donc, j'attends encore 5 minutes. Parce que je me dis, il est très très froid, d'accord, mais comme ça, bon, est-ce que je suis en état maintenant où si je ne vais pas, je vais mourir? Non, je peux attendre encore 5 minutes.
Et
comme... Hein? Alors, lui, il a jugé qu'il n'est pas en état encore de vraiment se mettre en danger. Et comme ça, de 5 minutes en 5 minutes, il a tenu jusqu'à monter Shabbat. L'arbre nous dit qu'il a eu tort de faire ça. La preuve en est qu'il est sourd d'une oreille. Mais quand même, pour te dire, c'est pas la valeur de la Torah pour ces gens-là. C'était, il devait tirer Shabbat. Et il a fait un grand pile-poule. Il n'a pas le droit de tirer Shabbat. Alors, est-ce que mieux vaut que je... Ouais, tirer au fusil. Est-ce que mieux vaut que je tire maintenant, normalement, et je touche une fois la cible, du premier coup, et comme ça, je fais un issour, ou que je tire à l'envers, béchinouille, je prends le fusil à l'envers avec la main gauche et je tire, mais là je risque de rater, je devrais tirer plusieurs fois. Est-ce que mieux vaut faire plusieurs issours des rabanan, des chinouilles ou un de horaïta? Il a dit c'est mieux de tenter des rabanan, et il a pris à l'envers et tac, il a touché du premier coup. Et ils ont mis une annonce dans le journal, d'accord, la grandeur de nos soldats qui arrivent même de la main gauche avec le fusil à l'envers et touche du premier coup la cible. Voilà, ça c'est... Et bon, alors, après le stapler, c'est quoi? C'est quand on avait une question, on allait chez lui, c'était un scanner, d'accord? Un quoi Ruach HaKodesh? Quoi Ruach HaKodesh? Il ne recevait pas les femmes, mais il ne voulait même pas qu'une femme écrive. Si jamais une femme avait fait passer un petit billet comme ça, il hurlait comme ça.
Bon.
Hein? Elle faisait passer par un homme qui écrivait. Ou bien même des gens qui avaient refoua pour des gens. Mais Halal Shabbat, rien qu'il voyait le nom, il hurlait, mais Halal Shabbat. Quoi Ruach HaKodesh? Mais moi, quand j'allais le voir, j'allais au Mikveh avant, je faisais Tchouva, tout ça, on rentrait, on était comme ça.
Il n'y a pas longtemps qu'il
existait. Décédé il y a 25 ans, 20 ans, 25 ans. Et son fils, Abraham Kanevski, c'est un des plus grands laïcs, lui aussi a Ruach HaKodesh. Abraham Kanevski. Le père s'appelait Rabbi Yaakov Israel Kanevski, le stapler, comme on l'appelait, son fils, Abraham Kanevski. Baruch Adonai, l'homme noir, mais...